Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h et vous êtes en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Et aujourd'hui, plein de monde autour de moi, mais comme d'habitude, Alexandre, bonjour Alexandre.
Bonjour à tous.
Je ne t'oublie plus, ça y est. Mais aussi Éponine qui vient nous faire une chronique aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Et nos invités du jour, Corentin et Valérie, allez.
Bonjour. Bonjour.
Et donc on va te laisser la parole aujourd'hui, Éponine, qu'est-ce que tu nous proposes?
Oula, c'est moi qui commence. Donc je vous propose de parler de trois livres, donc une trilogie, « To All the Boys I've Loved Before » ou en français « À tous les garçons que j'ai aimés ». Puisque le deuxième film est sorti sur Netflix hier, donc je voulais un peu faire un résumé, voir les différences qu'il y avait entre le livre et les livres et le film, et un peu vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc pour résumer, on parle de Lara Jean Covey Song, qui en fait écrit des lettres d'amour, donc parfait pour la Saint-Valentin, à chaque garçon qu'elle a aimé, donc 5 en tout. Mais dans chacune des lettres, donc elle laisse vraiment aller ses sentiments, elle parle vraiment de ce qu'elle ressent, puisqu'elle se dit « Non mais moi je ne vais pas les envoyer, personne ne va les lire, donc c'est juste pour moi. » Donc voilà, elle a un petit train de vie tranquille, elle lit, elle fait de la pâtisserie, elle est proche de sa famille, voilà, vraiment le petit monde idyllique. Et puis tout ça est bouleversé quand les lettres sont envoyées à son insu. Donc voilà, les personnes, les garçons à qui elle a écrit des lettres d'amour reçoivent ces lettres. Donc elle est dans la panique, surtout que l'un des garçons dont elle est amoureuse, enfin ou était amoureuse, c'est l'ancien copain de sa sœur. Donc pour éviter que lui commence à se faire un peu des films et pour pas que sa sœur soit au courant, elle décide de commencer une fausse relation avec un autre garçon qui a aussi reçu une lettre qui s'appelle Peter Kavinsky, vraiment le nom à l'américaine, et qui lui en fait veut rendre jalouse sa copine. Donc là vous vous dites, oh, on a le fake dating, vraiment un peu une histoire sympa. Et puis c'est vrai que Lara Jean ne veut pas faire face à ses sentiments, mais elle va se rendre compte qu'elle peut pas faire ça toute sa vie malheureusement. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est parfait pour la Saint-Valentin. Moi j'avais pas lu les livres avant de voir le premier film, donc j'ai vraiment été surprise. J'avais vraiment aimé, c'est très romantique, assez simple, un peu gnangnan, donc moi c'est parfait pour moi, pas très... voilà, faut pas trop réfléchir. Et je me suis dit, mais je vais lire les livres, puisque je peux lire. Donc c'est écrit par Jenny Han, il y en a trois, à peu près 300-400 pages chacun, donc c'est assez rapide à lire, je trouve. Donc là, je vais vous parler un peu des points forts que j'ai beaucoup aimés. C'est l'histoire d'amour. Moi, j'aime beaucoup quand c'est des relations, l'amour, parfait. Il y a une représentation américano-coréenne, pardon. Donc c'est intéressant aussi de voir ce point de vue. Moi, je suis très pour la représentation dans les livres. Je trouve ça vraiment bien que des enfants puissent se retrouver dans des personnages. Et le gros plus de ces livres pour moi, c'était un personnage qui s'appelle John Ambrose McLaren, qu'on ne voit que dans le deuxième, mais qui pour moi est un coup de cœur. J'adore tomber amoureuse des personnages inexistants, hein. Et j'ai trouvé que dans les livres et dans le film, on s'attachait assez à la personnage principale, Lara Jean, parce que voilà, elle est timide, elle est plutôt dans son monde à lire des livres, comme on va en parler des livres, bah voilà. Et puis vraiment, elle rêve d'avoir une relation, mais elle a peur de ça. Les petits points faibles, quand j'avais vu le film, je trouvais certains des personnages assez agaçants. Ils étaient intéressants, mais bon, c'est des enfants de 16 ans, enfin ils sont censés avoir 16 ans, donc toutes les 5 minutes il y a des dramas, des embrouilles. Je ne pensais pas que c'était possible que dans le livre ce soit encore plus agaçant. Mais si, c'est possible, les personnages sont vraiment pires que dans le film. Et toutes les 5 minutes il y a un nouveau drama, mais c'est qu'à force sur peut-être 20 pages quand t'as eu 3 dramas, ça devient un petit peu beaucoup. Et puis pareil, ce que j'avais pas aimé, c'était que la fin des livres était un peu ambiguë. Il y avait pas de vraie fin, donc t'étais obligé de lire la suite. Alors que pour les films, ce qui est bien, c'est qu'une fois que t'as regardé le film, tu veux pas le regarder le deuxième, t'es pas obligé. Il y a eu une fin. Là, fallait vraiment lire les trois pour que t'arrives enfin à quelque chose de satisfaisant. Et c'est vrai que de pas avoir de résolution d'histoire, Moi, je trouve ça très frustrant. Je sais que c'est un peu le nouveau truc de... Enfin, c'est ancien, je dis n'importe quoi, mais ce hangover... Ce... Non, pas hangover, cliffhanger de... Il y a quelque chose à la fin et on veut savoir la suite. Donc voilà. Donc l'histoire, au bout d'un moment, ça devient pas très intéressant. Et le tome 3, pour moi, n'était pas nécessaire. Il y avait des nouveaux personnages dans le tome 2, donc on va en parler dans le tome 3 pour finir, en fait, cette histoire qui, honnêtement, pouvait être finie dans le tome 2. Et malheureusement, les personnages semblent pas vraiment évoluer, à mon avis. Ils restent assez pareils du début à la fin, et ils restent très clichés, c'est-à-dire qu'elle, elle est très, on va dire, sainte Nitouche, elle le reste du début à la fin. Lui, c'est le cliché du footballeur, il reste ça du début à la fin. Et la méchante ex, bah voilà, elle reste méchante et ex tout le long. Donc voilà... Donc après, moi j'avais vraiment aimé le 1, donc lire les livres, je me suis dit bon, c'est intéressant, mais je vais continuer à regarder les films puisque c'est assez différent. Et le 2 est sorti hier, et bien sûr je l'ai absolument regardé dans la même journée. C'est vraiment bien pour la représentation, encore une fois, dans le livre. Donc mon personnage préféré, c'est vraiment, il est blanc, il est blond, aux yeux bleus, qui contraste avec son autre chéri qui est blanc, mais qui a les cheveux noirs, tout ça. Et là, il est représenté par Jordan Fisher, qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui est métissé. Donc, encore une fois, ça développe quelque chose. C'est assez intéressant. Elle est américaine-coréenne. Donc, pareil, ça permet aussi de voir de la diversité. Les films se finissent vraiment. On n'est pas obligé de regarder le 1, le 2. Enfin, il n'y a pas de souci. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les graphismes. Il y a vraiment un côté qui a été travaillé dans ce qu'on appelle vraiment l'ascétisme, avec les tenues de la personnage principale. Ils ont vraiment fait une chambre d'ado avec des livres partout. Donc, ils ont vraiment travaillé dessus. Je trouve ça intéressant. Et puis, les histoires... Les musiques vont très bien avec l'histoire, ça permet de découvrir de nouvelles musiques, j'ai bien aimé. Mais malheureusement, dans les films, il y a aussi des points faibles. Et bizarrement, j'avais préféré le film au premier tome. Et là, j'ai préféré le deuxième tome au film. Le deuxième film, en fait, c'est normal quand on a des représentations des adaptations de livres en film, qu'on perde beaucoup de contenu. Mais alors là... on comprend pas du tout parce que, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de drama dans les livres. Et puis là, dans le film, comme c'est résumé très rapidement, on se dit mais ils sont en train de s'embrouiller pour absolument rien puisqu'il n'y a pas de build-up. C'est-à-dire que d'un coup, ils se disent « Ah, je veux plus être avec toi » et tu te dis « Mais pourquoi ? Il n'y a pas de raison. » Donc c'était assez dommage. On avait des romances entre d'autres personnages où on mettait en avant d'autres personnages qui, honnêtement, n'avaient pas besoin d'être mis en avant. Plutôt que de mettre des scènes romantiques ou... qui faisait travailler ou marcher l'histoire. Donc le film est un peu absurde quand on le regarde, et surtout quand on est comme moi, on va avoir 23 ans et qu'on regarde des jeunes entre guillemets de 16 ans qui sont en train de se crêper le chignon parce que « Ah mais tu m'as pas regardé et tu m'as pas répondu à mon message ». Voilà, donc j'ai quand même apprécié les livres. Je crois que je leur ai mis un 3 sur 5. C'était pas un gros coup de cœur parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'ont dérangée. Et pour les films, j'avais vraiment, vraiment aimé le 1. Et là, le 2, j'ai été un peu déçue. Et bien sûr, ils ont filmé le 3 hein, pour finir la trilogie. Et connaissant Netflix, ils seraient capables d'en faire plus. Mais voilà, j'espère qu'ils vont s'arrêter. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire les livres. C'est sympathique, voilà.
Eh bien, merci Panine. En tout cas, tu m'as beaucoup fait rire. Et puis on va passer une petite musique avant de nous concentrer sur nos invités et sur le Bibliovore.
Oui, ce sera I Am DDB Trophy. À tout de suite.
Trophy home, you gotta go to you, never know you. I'ma take the trophy home, you gotta go to you, never know you. Take me to Paris, I like it. Give me champagne with no glass, yeah, I like it. Drink it all from the bottle.
or you did. Your man be in my DMs, or you did. Whilst I'm sitting with my king, or you did. Never snitch, never snitch. We only talk when it's business. Got no time for the hoe, she a queen, yeah. Got no time for the boy, but you're missing. I'ma give you the world, mend all your feelings. Got me love drunk, I'm loose, I am leaning. Got me feeling, but I doubt they would crown you, you feel me. You really feel me. Henny, henny, gang, gang, yeah, I'm with it. I'ma take that trophy home, you gotta go to, you never know, yo. I'ma take that trophy home, you gotta go to, you never know, you never know, yo.
Et nous revoilà en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Et là, nous allons pouvoir nous concentrer sur le Bibliovore. Est-ce que vous êtes prêts en face?
Prêts.
Oh, c'est beau.
Synchro, on est synchro, c'est incroyable.
Et du coup, nous sommes avec Corentin et Valérie Allais, dont je parlais tout à l'heure, mais je vais vous laisser un peu vous présenter un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que vous avez fait avant de monter le Bibliovore, justement, par exemple?
Alors, on a un antécédent de professeur de lettres. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés.
Il y a 20 ans.
Voilà. Au lycée Paul-Louis Courier. Nous étions tous les deux jeunes professeurs stagiaires. Donc, nous étions déjà collègues à l'époque. Et puis, après, voilà, ça, on est à nouveau collègues. Et en plus, on est mariés depuis. Donc, voilà, on est un couple sur scène et à la ville. Un long parcours dans la lecture, donc études de lettres, enseignement pendant jusqu'en 2012, où je suis parti donc pour monter le Bibliovore, et puis Valérie est venue rejoindre le bateau
plus récemment, oui, 2018,
en septembre 2018.
Septembre 2018.
Et du coup, on parle beaucoup Bibliovore, mais c'est quoi le Bibliovore?
Alors, par définition, le bibliovore, c'est celui qui mange les livres, voilà, avec la double racine grecque et latine. Hein, ouais. C'est le professeur de français, des fois, qui ressort. Le principe, les deux grands fondamentaux du bibliovore, donc c'est une librairie de livres d'occasion rue Colbert. Ce qui fait notre particularité, c'est que tous les livres sont vendus au même prix. On parle beaucoup du prix unique pour le livre neuf, hein, ça veut dire que tous les libraires vendent au même prix. Nous, c'est du prix unique où tous les livres sont vendus au même prix. Donc, tout est à 3 euros, 10 euros les 4, quel que soit le livre. Et puis, on met un point d'honneur à ce que les livres soient dans le meilleur état possible. Ce qui est bien, quand on a installé la librairie, avant d'afficher le concept et les prix, les gens pensaient que c'était une librairie de livres neufs. Donc, ça nous a fait plaisir, ça veut dire qu'on est quand même attentif sur la qualité des livres qu'on propose, sur l'état qu'ils aient l'air encore appétissant.
Alors, et du coup, depuis quand? Parce que mon petit doigt m'a dit que ça n'a pas toujours été une boutique, qu'avant c'était une brocante. Alors.
Exactement, en fait. Alors, le bibliovore vraiment officiel, c'était vente en ligne et vente sur les brocantes professionnelles. Sachant que moi j'ai commencé un petit peu avant, en complément de ma carrière d'enseignant, à vendre mes livres de fac qui dormaient dans mon garage, en me disant c'est quand même un petit peu dommage de les voir mourir, c'est pas le projet, et en me disant qu'en les vendant à petit prix sur internet, ça allait pouvoir servir à d'autres. Donc ça a commencé comme ça, ma reconversion professionnelle de vendeur de savoir, ou diffuseur de savoir, à vendeur de lecture, et donc finalement toujours diffuseur de savoir, mais sur d'autres canaux. Et puis, quand j'ai démissionné de l'éducation nationale, donc je faisais de la vente en ligne de livres spécialisés, universitaires, un peu pointus. Et puis, il y avait aussi des livres qui étaient plus courants, donc il y avait aussi une plus petite valeur marchande, mais qui étaient en très bon état. Et je me suis dit, si je les vends vraiment à des prix très attractifs, ça va permettre de les faire adopter, et ça va pouvoir servir à d'autres. Donc j'ai commencé les brocantes comme ça, avec déjà du prix unique, et puis des livres en bon état, tout confondu, donc aussi bien romans très populaires que aussi des livres plus spécifiques, plus difficiles à lire, avec ce mélange vraiment de livres très très récents, d'autres un petit peu plus anciens, pour avoir vraiment un petit peu de tout.
D'accord. Et du coup, votre évolution en deux, trois mots, parce que Il a dû s'en passer des choses du coup depuis 2012.
Oui, alors comme on faisait la brocante, enfin à l'époque j'étais tout seul, sur la brocante professionnelle de Tours, boulevard Béranger, donc le quatrième dimanche. Et puis après, j'avais un peu souffert de l'enfermement dans ma salle de classe, donc j'avais besoin de prendre l'air. Donc c'était très bien, c'est une très bonne école de commerce, les brocantes, où on se lève le matin à 6h, on prend le camion, on arrive dans la brume, tout le monde est mort de froid, c'est très sympa, mais il y a cette solidarité aussi quand même de la brocante. Ce qui fait qu'après, j'ai commencé à faire le déballage aussi à Angers. Donc là, c'était le premier dimanche, tous les mois, toute l'année, donc par tous les temps. Et puis, ponctuellement, des brocantes, on a fait Blois pas mal de fois, on est allé au Mans pendant plusieurs mois aussi. Et puis, notre notoriété a commencé à se développer. Il y a eu une étape importante aussi, c'était des comptoirs d'achat éphémères, parce qu'en fait, nous, en tant que vendeurs de livres d'occasion, on n'a pas de grossiste, donc on passe pas les commandes le lundi matin en disant, bon, il me faut 3 Musso, 2 Lévi-Strauss, et voilà. Donc, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va vendre, c'est le charme aussi, ça dépend de ce qu'on nous a vendu avant. Mm-hmm. Donc, en fonction de ce qu'on achète, bah, ça déterminera ce qu'on aura à vendre. Et comme ça fonctionnait bien déjà à l'époque, parce qu'on a un rapport qualité-prix quand même sympa, on s'est dit, il faudrait qu'on puisse acheter plus de livres, ce qui fait que j'ai loué un mois un local, donc j'ai fait ça 3 fois sur 6 mois d'intervalle à chaque fois, donc un local pendant un mois où c'était moi le client, en fait on venait me vendre des livres. Donc je savais pas du tout ce que ça allait donner, en fait ça a tout de suite bien marché, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des livres qui dormaient sur des étagères et qu'ils étaient très contents de les remettre en circulation. Et puis on s'est retrouvé finalement avec beaucoup de livres en attente, plein de livres super, en se disant là, avec le rythme des brocantes on va partir à la retraite, il y aura encore des cartons qu'on n'aura même pas sortis avec plein de trucs super. Et puis on entendait les clients des brocantes qui disaient ouais mais une fois par mois, si jamais c'est un dimanche on peut pas venir, faut attendre 2 mois, peut-être que si vous aviez un lieu fixe, ça serait intéressant. Alors c'était un peu le défi, c'était de garder les mêmes prix qu'à la brocante, parce qu'évidemment bah, y a un loyer qui n'est pas un emplacement de brocante, hein, donc il y avait plus de frais. Et puis on a dit bon, on va le tenter, mais c'était forcément rue Colbert sur la partie piétonne, et ça c'était pas négociable. S'il n'y avait pas d'emplacement sur cette partie là il n'y avait pas de librairie.
On fera encore les brocantes actuellement.
Ce qui fait que on a eu les conjonctures étaient bonnes et on a trouvé un local super adapté, rue Colbert, toujours aussi pour cette histoire un peu d'enfermement. Donc je voulais bien avoir un aquarium, mais dans un bel endroit où il se passe des choses, donc voilà, là c'est très lumineux, et puis bah, c'est une rue piétonne, semi-piétonne, mais bon, c'est beaucoup de gens à pied, à vélo, des poussettes, enfin c'est un environnement formidable.
Ok, et du coup, qui travaille? Parce que bon, déjà tous les deux, mais de ce que je sais, vous n'êtes pas tout seul non plus.
Et non, bah, moi j'ai rejoint Corentin justement pour revenir un peu sur les brocantes, comment je suis partie de mon ancien métier de prof à celui de libraire de livres d'occasion. Bien tout à l'heure, il vous a parlé des très très bonnes conditions que nous rencontrions sur les brocantes. Moi, ça m'a donné envie tout de suite. Se lever à l'aube un dimanche, après avoir passé toute une journée au collège, formidable. Et j'ai adoré ça tout de suite. Et depuis quelques années, je disais à Corentin, le jour où il y a du travail pour deux, tu me le dis, je lâche Éducation nationale, où j'étais très très heureuse. Mais voilà, faire autre chose au bout de 19 ans, passer autre
chose.
Pour de vrai,
c'est pas ironique. Hein, quand Valérie dit qu'elle était très heureuse, c'est vrai.
Et avec l'ouverture de la boutique, on a vu qu'il s'était passé quelque chose dès le mois de janvier 2018. On s'est dit, bon, quand je serai à la retraite de l'éducation, on s'était vraiment dit ça, quand je serai à la retraite de l'éducation nationale, je te rejoindrai dans la librairie, on sera mignons tous les deux, tout vieux, à vendre des bouquins, tout ça. Quelques jours après, on s'est dit, bon, on va peut-être se donner quand même 2 ans, soyons raisonnables, voyons voir comment ça va fonctionner, je vais quand même pas lâcher la fonction publique comme ça, c'est mieux que dans un couple, on a un des deux qui apporte un salaire fixe, etc. Bref, un mois après, j'écrivais ma lettre de démission de l'éducation nationale. J'ai quand même fini l'année scolaire, j'ai emmené mes petits jusqu'au brevet, etc. Et ensuite, banzai quoi, tous les deux dans l'aventure.
Au départ, on était ouvert mercredi, vendredi, samedi.
Oui.
Le dimanche, on faisait les brocantes. Donc là, il y a eu 6 mois où Valérie cumulait, puisqu'elle avait ses élèves la semaine. Le mercredi, elle ne pouvait pas s'empêcher de venir me rejoindre à la librairie.
Après-midi, oui.
Et même des fois le vendredi, en finissant ses cours.
Je finissais à 17h à Langer, au collège de Langer.
Donc 6h moins le quart à la librairie pour faire ma 19h, mais c'est toujours une heure de prise. Et puis, quand on a arrêté les brocantes en juin l'année dernière, on a décidé d'ouvrir la librairie tous les dimanches. Ce qui est toujours le cas. Donc, on était passé à 4 jours. Et puis, on avait, alors, autant les habitués, nos usagers lecteurs, étaient presque surpris qu'on soit ouvert tous les dimanches. Je trouvais ça un peu excentrique. Mais ils trouvaient que c'était formidable. Parce que c'est vrai que, des fois, le dimanche, c'est une bonne occasion de se promener dans le quartier. On a plus de temps, on est moins, voilà, entre les courses, les petits à chercher au foot, ce genre de choses. Et puis, en revanche, ils comprenaient pas qu'on soit fermé le mardi et le jeudi.
Ouais, surtout.
Le lundi, c'est classique, les commerces sont fermés. Et donc là, on avait entendu ça, sachant que souvent nous, même quand on était fermé au public, souvent le mardi ou le jeudi, c'est des jours où on va chercher des grosses bibliothèques, 1000, 2000, 3000 livres, donc là c'est pas les gens qui vont nous les amener, hein. C'est un peu compliqué, donc on y va avec le camion, on va sur place, donc en fait même si la librairie était fermée, nous on n'était pas à la maison, voilà, tranquillement, au calme, à se reposer. Et puis créer un poste juste pour 2 jours par semaine, ça faisait très peu, ça faisait 14 heures, c'était pas super satisfaisant. Enfin, demander à quelqu'un de venir juste pour faire 14 heures sur 2 jours, c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit, si on crée un poste, il faudrait qu'il y ait au moins 3 jours, donc 21 heures. Ça peut convenir à un étudiant. Donc on en a trouvé un très bien, qui est en deuxième année de Sciences Éco à la fac des Deux-Lions. Et donc on lui a
dit
proposé.
Quand c'est ton fils.
Bon, admettons. Donc Arthur a rejoint la librairie depuis le 1er décembre. Donc sachant que comme depuis ses 16 ans, il venait assez souvent sur les vacances scolaires me donner un coup de main à la brocante. Donc j'avais vu rapidement que ça lui plaisait. Pas tellement de vider le camion et d'installer les barnums, mais vraiment rencontrer des gens en fait. Donc il avait vraiment le profil. Donc il travaillait à l'époque au cinéma des Deux-Lions. Et quand on lui a proposé, il a dit quand vous voulez, vous me dites, je pars du cinéma et puis je viens travailler à la librairie. Et on est du coup très heureux, très fiers et puis très contents.
Très contents de cette ouverture 7 jours sur 7.
Maintenant, voilà, nous sommes ouverts tous les jours.
On aime bien dire aussi qu'on est une librairie de garde le dimanche.
Pour les urgences.
C'est ça. Et bien justement. Le travail en famille, ça donne quoi? Parce que pour beaucoup, c'est compliqué, mais là, ça a l'air de bien se passer. Comment vous le vivez?
Écoutez, très bien. C'était notre vœu le plus cher, je pense. C'était d'être encore plus ensemble qu'auparavant. On était vraiment en décalage les dernières années quand j'avais mon collège de Langer et toi, tu travaillais le week-end en brocante, le dimanche. On n'était pas du tout sur les mêmes rythmes. Donc, Corentin n'allait pas venir me voir faire mes cours à Langer. Donc, entre guillemets, il m'attendait. Bon, des fois, il allait acheter des livres, tout ça. Moi, j'étais très, très frustrée de ne pas l'accompagner à acheter des livres. C'est toujours un peu l'aventure. Hein. On prend le camion, on va chez des gens, tout ça. Le dimanche, bon, je l'accompagnais. Donc, on voyait bien qu'on était fait pour travailler ensemble. On s'entend très bien.
Hein? J'espère.
C'est mieux. Si d'autres ont le projet de travailler ensemble, c'est mieux de s'entendre déjà bien avant.
Et ouais, on est vraiment complémentaires par rapport aux idées qu'on peut avoir. Enfin, la boutique, on en parle tout le temps. On était en vacances, on en parlait tout le temps. Il a des qualités que je n'ai pas, j'ai des qualités qu'il n'a pas.
C'est vrai que c'est
un très grand logisticien, Corentin.
Quand on a officialisé le fait de travailler tous les deux, on s'est un petit peu partagé quand même les postes, chacun en fonction de ses compétences. Donc moi, depuis le début, même quand j'avais ouvert en tant que moi tout seul, j'ai toujours dit que c'était la librairie de Valérie, parce qu'elle est plus lectrice, surtout de lecture contemporaine. Enfin voilà, moi j'ai pas lu que des classiques, mais voilà, surtout ce qui était policier, c'est un genre que moi je lis pas du tout. Donc elle est de bien meilleurs conseils en boutique, ce qui fait que moi souvent je suis un peu caché dans les coulisses, en train de trier des livres ou sur la route. Donc je suis moins souvent présent, mais c'est toujours un grand plaisir. Mais c'est presque les moments où je me repose hein, quand je suis au chaud dans la librairie à parler avec les clients de bouquins, c'est super sympa. Mais il y a tout un travail quand même à faire avant. Les livres n'arrivent pas tout seuls, il faut les sélectionner. Si on achète une grosse bibliothèque, là on en a acheté une grosse bibliothèque d'histoire, il y avait quasiment 10 000 livres, donc c'est une grosse bibliothèque d'histoire. Donc évidemment, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est formidable. Pour ceux qui ne s'intéressent pas, ça ferait beaucoup. Donc il faut remélanger avec d'autres fonds, d'autres sujets, d'autres... Voilà. Donc il y a un petit travail de cuisine quand même pour
une sorte de macédoine.
C'est ça. Et puis, pour le fait de travailler en famille, après avec Arthur, c'est vrai que comme il était déjà venu sur les brocans, je savais que c'était dans ses cordes. Voilà. C'est, je savais qu'il avait, il avait des cas. Après, c'est pareil, il y a des choses qu'il ne fera pas. Voilà, il sait clairement ce qu'il a à faire et puis il le fait très bien. Donc on lui demande pas non plus. Des fois, c'est presque lui qui est un peu embêté. Il dit ouais, mais bon, il y a plein de livres que j'ai pas lus. Je dis mais tu sais, Arthur, moi aussi. Ensuite, t'as 19 ans. Les clients vont te pardonner. Et Valérie lui avait dit aussi, tu sais, moi quand j'étais à la fac de lettres, du haut de mes 19 ans, j'avais pas tout lu non plus. Et j'ai toujours pas tout lu et je ne pourrais jamais tout lire.
Donc ça me rend malade.
Un petit peu détendu en disant, tu sais, c'est voilà, déjà tu vas pouvoir orienter les clients à la librairie, dire bah la partie histoire est là, les romans sont ici. Après, tu peux pas. Nous non plus, on les a pas tous lus, ce serait impossible.
Et puis il y a la fierté vraiment de travailler en famille aussi, d'avoir déjà créé le Bibliovore en 2012, c'est déjà énorme que le Bibliovore existe toujours. Ensuite, qu'il y a eu la création de mon poste quelque part, j'étais générateur d'emploi. et ensuite le CDI d'Arthur de 21h, quoi, c'est plutôt énorme autour du livre. Donc on en est très fiers. Très fier.
C'est plutôt encourageant par rapport à ce qu'on entend parfois, que le livre papier, c'est fini. Et en fait, nous, rapidement, on s'est aperçu qu'on avait des lecteurs de tous les âges, que souvent c'est pareil, on s'imagine un petit peu des gens à la retraite, monsieur va venir chercher de l'histoire, et puis madame des romans à l'eau de rose. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Notamment le dimanche, on a souvent trois générations. Donc les parents, les enfants et les petits-enfants viennent tous ensemble à la librairie, tout le monde repart avec quelque chose à lire, donc ça suit les familles, ça de toute façon. Famille de lecteurs, donc voilà, les enfants seront lecteurs.
Et même si les gens repartent sans rien, c'est pas grave. Chez nous, on tenait vraiment, chez nous, vous voyez, c'est notre librairie, on tenait vraiment à ce qu'il y ait quatre sièges, que les gens puissent s'asseoir. On a quoi, 45 mètres carrés, je crois, Corentin ?
35.
J'arriverai pas. Donc 35 mètres carrés, c'est tout. Et on a quand même mis des sièges, c'est important que les gens puissent s'asseoir, se reposer. On a eu un jour un changement de couche sur un de nos sièges, un bébé qui s'est endormi. Et puis, bah, des fois, il y a le conjoint ou un enfant qui n'a pas spécialement envie de regarder. C'est pas grave, ils sont là, ils sont bien, ils feuillettent une BD, un beau livre à regarder, que sais-je encore. Et puis, ils repartent et c'est très bien comme ça. C'est très bien, ils sont venus dans une librairie, ils ont été bien accueillis et voilà, ça c'est important aussi.
En fait, c'est plus un lieu de partage qu'une librairie, au final. C'est
vraiment... ouais, aussi.
C'est comme si vous ouvriez votre bibliothèque de chez vous à des inconnus.
Il y a un peu de ça. Il y a déjà, des fois même, des livres qui viennent de notre bibliothèque, dans la librairie. Enfin, il y a une sorte de porosité entre notre bibliothèque et la librairie assez incroyable.
C'est un peu notre petit salon de lecture auquel les gens bienveillants sont conviés.
Oui, oui. Je mets mes coups de cœur aussi littéraires. Toujours des petits coups de cœur qui sortent des bouquins. Comme ça, on sait au moins que ça, c'est un point de départ pour pouvoir parler du livre aussi.
Et puis on accueille des expositions d'artistes, donc là on aura bientôt des photos, on a eu des tableaux, enfin on en a encore en ce moment, là on a une extension de l'exposition d'Olivier Rousseau, qui est galeriste rue de la Sellerie, donc un voisin du quartier, et qui de temps en temps nous laisse des œuvres de sa galerie en complément. Donc nous on est très honorés, et puis dès que des artistes, alors c'est toujours des gens d'ici, hein, voilà, qui
Aurélien Vician, le mois dernier.
Son lecteur aussi.
Et puis là, bientôt, Jean-Mi Merlan, qui fait très très belles photos noires et blancs. Voilà,
et puis on a un ami aussi qui vient jouer de la guitare tous les premiers dimanches après-midi. Voilà, il vient gratouiller en fond sonore à la librairie, donc voilà, on trouve ça chouette. De temps en temps, il amène un autre musicien, donc il joue doucement pour pas déranger quand même ce lieu sacré de la lecture. Mais ça fait partie, c'est vrai, de la façon dont nous on voit les choses. Donc c'est à la fois paisible comme une bibliothèque et animé aussi comme un café littéraire.
C'est quand même très très animé des fois, hein, quand même.
Alors c'est souvent nous qui ont le plus de bruit.
Du lieu sacré, je trouve qu'on a au contraire vraiment désacralisé la librairie. Des fois je m'entends même plus parler tellement je braille là-dedans, faut vraiment que je me calme. Mais ouais, on invite vraiment les gens à partager aussi une ambiance... Et le livre, des fois, est un prétexte, c'est vrai.
D'accord. Et bon, on va revenir tout de suite pour reparler du Bibliovore plus en détail après une petite pause musicale.
Et oui, ce sera Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.
Ouh. Ah bah, Justin. Everything you wanted in a man. you claim. You said that you were moving on out. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
This is the one.
I'm just so sick about it. I can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just need you.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around.
Should've known better
that you were gonna make me cry.
And I was breaking my heart to watch you run around.
Et nous revoilà en direct sur Radio Campus 99.5 pour reparler du Bibliovore avec toujours tout le monde à la table. Et du coup, on parlait beaucoup d'ouvrages, de nombres incalculables de livres que vous allez chercher tout le temps. Mais actuellement, vous avez combien d'ouvrages dans la boutique ?
Alors, dans la librairie, il y en a environ 4500 en permanence. En stock, on a 4 ou 5 fois ça d'avance.
Oui,
aussi
oui.
Pour pouvoir justement mélanger les bibliothèques thématiques, qui est toujours un petit peu de tout. Et puis, nous, quoi qu'il arrive, en fait, ça fait aussi partie un petit peu de nos spécificités. Qu'ils soient vendus ou pas vendus, on remet 500 nouveautés systématiquement toutes les semaines.
D'accord.
Ce qui fait que pour des habitués qui viennent au moins une fois par semaine, il y a toujours beaucoup de nouvelles choses à voir. Donc ce sont nos dernières acquisitions, parce que des fois c'est des nouveautés des années 70. Hein. C'est du livre d'occasion, donc c'est pas forcément les derniers livres qui viennent de paraître, c'est les derniers livres que nous on a achetés. Ce qui fait que ça a permis de fidéliser des clients qui ont rapidement vu que s'ils revenaient un mois après, c'est comme si la librairie avait complètement changé.
D'accord.
Donc ça donne envie de revenir pour voir ce qui vient d'arriver. Et comme souvent, le gros renouvellement, on le fait le vendredi après la fermeture. Quelques habitués ont vu que le samedi matin, c'est là qu'il y avait un maximum de nouveautés. Donc, il y a une belle affluence le samedi matin de gens qui viennent voir ce qu'on a ramené comme trésor caché.
D'accord. Ça doit être sympa parce que ça doit être l'affluence. Ça y est, c'est les soldes. Il fait 40 à temps.
Alors la notion de solde, non, parce qu'on est d'accord c'est qu'on a toujours le même tarif, en fait, voilà, toujours le même prix.
Non, je parlais par rapport au monde et au cliché qu'on a des soldes avec tout le monde qui attend devant.
Ah oui, oui, d'accord. Ouais.
Donc c'est solde permanent, en fait, c'est les meilleurs prix pour tous tout le temps. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir des autorisations de date pour faire de très bons prix. C'est pareil, pour le. On avait posté ça pour le Black Friday, on avait mis ici, c'est Black Friday tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, tous les jours, en fait, pour tout le monde.
C'est cool. Et du coup, vous vendez à peu près combien de livres et vous en recevez à peu près combien, sans parler des grosses cargaisons que vous avez cherchées, mais en moyenne, par semaine, ça tourne autour de combien?
Ouais, c'est...
Difficile à dire.
C'est, bah, on essaie de faire en sorte d'en vendre au moins 500 pour mettre des nouveautés déjà. Et puis, alors tous les jours, on vient nous en vendre, parce qu'on fait ça aussi, on fait achat et vente. Hein, donc, nous, on achète au point 1 euro le kilo, hein, c'est transparent, officiel. C'est un système comme un autre, mais au moins, ça permet que ça soit simple, rapide, transparent. Mmh. Donc, on sait ce qu'on peut espérer, récupérer en venant amener ses livres. Exactement. Donc, après, on a envie, pas envie, ça, c'est chacun qui voit. Nous, c'est une proposition, mais au moins, c'est simple. Donc, ça, c'est bien. On fait quand même toujours bien attention à l'état des livres. S'il y a des pliures, des choses comme ça, bon, ça, c'est, ça sera éliminatoire. On ne va pas être du tout censeur sur le contenu. En disant non, cet auteur-là, c'est une. Mais en revanche, on va dire non, non, là, il y a une pliure. Voilà, c'est. Au-delà, avant même de regarder qui est l'auteur et de quoi parle le livre, on va déjà regarder s'il est encore en état, s'il n'est pas trop fané ou. C'est comme dans une boulangerie, hein, si on voit que tout a l'air un petit peu sec et ça ne donne pas envie. Bah, c'est pareil pour les livres, en fait, hein, ou des fleurs fanées, bah, c'est, ça ne donne pas envie d'acheter un bouquet de fleurs fanées, fleurs séchées, pourquoi pas, mais voilà. Donc, on fait très attention à ça. Après, les stocks sont très variables parce que donc, ce qu'on nous apporte tous les jours, c'est souvent un sac à course, deux sacs à course ou un petit coffre de voiture. On en a un qui est venu une fois avec un camion, donc bon, il a vendu 600 kilos de livres, hein, donc il était content, il est reparti avec 600 euros. Ça, c'est des, voilà, c'est, nous, on était très contents, il nous a ramené plein de choses. Donc ça, c'est plutôt rare à la librairie.
Mm-hmm. Oui, en général, on se déplace.
Où
pour
les gens
telle
prennent
quantité.
Rendez-vous. Voilà. Quand ils savent que ça va, risque de durer un petit moment et qu'il y en a beaucoup, souvent, ils nous demandent à quel moment ils peuvent passer pour pas que ça soit perturbant non plus pour les gens qui viennent juste se promener dans la librairie et puis regarder ce qu'on vend. Après, les grosses bibliothèques, on tourne à peut-être une ou deux par an, les très grosses, c'est-à-dire au-delà de 3000 livres.
Ça commence à faire déjà 3000 livres.
Ça commence à faire, et puis, alors je ne sais pas pourquoi, mais les livres sont toujours le plus éloignés de la porte d'entrée. Je ne me l'explique pas, mais quand on. La bibliothèque principale d'une maison, c'est toujours à l'autre bout par rapport à l'entrée.
C'est vrai.
Souvent au dernier étage.
Ouais. Et s'il y a une mezzanine, il y en aura dans la mezzanine.
C'est ça. Alors. Comment dire ? Le métier de libraire est aussi un métier de déménageur, et c'est même d'abord un métier de déménageur, surtout pour nous qui sommes sur de l'occasion. Donc c'est pareil, voilà, une librairie de neuf passe sa commande, le transporteur arrive, dépose la palette devant l'entrée, il n'y a plus qu'à vider les cartons. On a fait une bonne bibliothèque à Cholet, parce qu'on se déplace aussi, hein, quand il y a des livres intéressants à prendre, on va les chercher là où ils sont. Hein. Moi je suis allé à Lyon, je suis allé à Lille, donc quand je disais les livres n'arrivent pas tout seuls, il y a tout un travail à faire avant de les mettre en rayon, donc ça peut être ça aussi. Et puis Cholet, bah, il y avait beaucoup de livres. On a descendu 250 cartons de 15 kilos sur 4 étages.
Je revois
sans ascenseur.
Je revois encore les escaliers.
On a surtout pensé à ceux qui les avaient montés.
Oui, mais peut-être au fur et à mesure, j'espère, parce que
donc c'était un peu impressionnant. Et puis ouais, c'était des livres en 4 langues différentes. Donc on fait aussi de temps en temps, tous les 2 mois, on fait un spécial langue étrangère. Donc on alterne multilingue et spécifique anglais. Donc là, la prochaine fois, ça sera le dimanche 1er mars. Donc
en fait, à
la librairie, il y a vraiment des...
C'est pas le 18, c'est pas dimanche 1er mars. Dimanche 1er mars,
ah oui,
c'est les
festipoches. Tu as raison, c'est le 8
Merci.
Mars.
Ouais, qu'on se complète.
Tout à fait. On fait aussi un festival de livres de poche tous les premiers dimanches. Donc en fait, la configuration de la librairie fait qu'on a un espace dédié aux nouveautés au milieu. Donc il y a des étagères littérature classées par l'alphabétique d'auteur. Donc un peu très... traditionnel, quoi. Un côté d'étagère où c'est dédié aux livres à thème, donc aussi bien de la cuisine que de l'histoire, que de la psycho, livres d'études divers. Et au milieu, en fait, on a des bacs qui sont un petit clin d'œil à comment était disposé notre stand à la brocante. Ce sont les mêmes bacs qu'on utilise. Et là, ce sont les dernières acquisitions, les fameuses nouveautés. Et donc, tous les premiers dimanches du mois, on remplace ces bacs-là par des bacs de livres de poche. Alors, c'est un festival des poches, c'est-à-dire que ce sont des livres de poche qu'on ne sortira qu'une seule fois.
D'accord.
Puisque le mois d'après, ça sera d'autres livres de poche, et qui ne sont pas ceux, évidemment, qu'on a dans les étagères. Donc, ce sont des livres plus confidentiels, moins grand public, qu'on ne garde pas aussi par manque de place, très longtemps dans la librairie. Donc, ça crée aussi un événement, puisque les amateurs de livres de poche savent qu'il y a beaucoup de choix, hein, parce qu'il y a, y a un millier de livres de poche à voir. Donc là, c'est
très
pareil,
bon état.
On a du monde à l'ouverture.
Pendant ce temps-là, Pascal gratouille sa guitare.
Exactement.
Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est le festival. Donc il y a le festival des poches.
Qu'on appelle le Festipoche.
Festival des langues, du coup.
Festival des langues.
Le Festilangue.
Festilangue.
Voilà.
Et là,
le Fest English.
Nous créons le Fest English.
Donc là, ça sera la première édition où on ne fait que du livre en anglais, parce que c'est comme surtout ce qu'on nous demande en langue étrangère. On essaie d'avoir, mais c'est pareil, c'est pas toujours évident d'en avoir des livres en allemand, en espagnol et en italien. Bon, il y a une petite demande, mais si on peut satisfaire pour ceux qui lisent dans ces langues-là, on est ravis de pouvoir le faire. Et puis, bon, en anglais, c'est vrai qu'on a pas mal d'habitués, parce que des livres en anglais d'occasion, sur Tours, il n'y a pas vraiment d'endroit finalement où on peut en trouver. Et puis c'est pareil, nous, quand on fait le festival des langues, on renouvelle intégralement tout le stock tous les mois, enfin à chaque édition en fait, donc tous les deux mois. Ce qui fait que ce ne sont jamais les mêmes livres que la fois d'avant. Et puis ça va mélanger aussi bien du roman que aussi des fois des livres d'études. Là, dans les bibliothèques d'histoire, il y avait aussi des livres en anglais. Ce qui fait qu'il y a des livres de cuisine.
Des livres de cuisine italienne rédigés en allemand.
Génial, parfait.
C'est assez sympa.
Et du coup, on a un peu dérogé sur ma... Enfin, vous avez un peu évoqué du coup ma prochaine question.
Ouais.
De ce que j'ai lu sur votre site, rangé méticuleusement par ordre aléatoire. Même si je sais que c'est plus le cas, c'est votre slogan. Pourquoi ? Comment ?
Alors ça, c'était notre slogan que Corentin a créé, près de 6 mois de réflexion environ. On en est vraiment là aussi très fiers.
Quatre ans d'études de lettres.
Quatre ans, oui, c'est ça. Donc c'était le slogan sur la brocante. Brocante, on avait 1500 livres, on en remettait toute la journée, on pouvait évidemment pas du tout les classer ni par ordre alphabétique d'auteur, ni même par genre, donc voilà, on laissait les gens farfouiller. Quand je dis farfouiller, attention, hein, c'est auteur d'homme, enfin, c'est présenté comme des disques chez un disquaire, vous voyez. Et donc, quand on a ouvert la librairie, les deux premières semaines environ, il n'y avait absolument aucun classement dans la librairie, que ce soit dans les étagères ou dans les bacs au milieu. Et très vite, même nous, on s'y retrouvait plus du tout. Là, de 1500 livres, on était passé à 4500. Donc, on a décidé de classer de manière verticale les livres. Quand vous rentrez à gauche, c'est la fiction. Et à droite, c'est le réel, en gros. À gauche, la fiction, la SF, polar, littérature blanche, etc. Et puis à droite, comme l'a dit tout à l'heure Corentin, les livres thématiques. Donc là, il y a déjà un classement. Ensuite, au milieu, les mêmes bacs, on conserve le slogan pour ces bacs-là.
La brocante,
ils sont rangés de manière aléatoire.
Les gens nous disaient, mais vous les avez rangés comment ils sont classés? On leur disait par ordre aléatoire, avec beaucoup de soin. Parce que c'est vrai qu'en plus, c'est toujours un peu militaire. Enfin, nous, on aime bien que ça soit très bien rangé. Ça met le livre en valeur, parce qu'on aime les livres, elle n'a pas envie non plus de les voir de se plier d'un côté ou de l'autre parce qu'ils ont été mal rangés. Donc les étagères sont toujours pleines pour que justement ils ne s'abîment pas, qu'il y ait toujours un maximum de choix. Et dans les bacs, c'est pareil, on complète au fur et à mesure. Et même quand on faisait les brocantes, on remettait. Et quand on fait les festivals, que ce soit poche, langue, on en remet toute la journée. Donc ce n'est pas forcément les premiers arrivés les mieux servis, puisqu'en fait, on va en remettre qui ne sont pas. Qui sont aussi des livres qu'on n'a jamais sortis tout au long de la journée.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est important, et ce qui fait que ça faisait un classement effectivement aléatoire. Alors de temps en temps, comme on met les petits devant et les grands derrière, comme dans les photos de classe, on disait aux gens ils sont classés par auteur, mais attention, c'est auteur avec un H. Voilà. Donc c'est un classement par auteur.
On était content de ce jeu de mots.
Oui. Tout d'années d'études de lettres pour en arriver là, mais c'est... Ça a vraiment au moins servi à ça.
Blague de L, comme disent les jeunes.
C'est ça.
Et du coup, pour en revenir au temps où vous êtes ouvert, vous êtes du coup ouvert 7 jours sur 7, c'est assez rare dans les magasins. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir le dimanche, vraiment, même depuis que vous avez du coup le lieu fixe?
L'angoisse de rien avoir à faire le dimanche, c'est pour nous qu'on fait ça, avant tout. D'abord, l'habitude de travailler pour les brocantes, on a pris ce pli-là d'aller bosser le dimanche, de se reposer le lundi, d'être un peu en décalage aussi avec les autres, ça nous plaît plutôt assez. Moi, quand j'étais prof le dimanche, je corrigeais mes copies de toute façon, ou je préparais les prochains cours, donc le dimanche n'a jamais été vraiment synonyme de repos pour ma part. Et bah ensuite, voilà, on a arrêté les brocantes. Et puis plutôt que se dire, tiens, le dimanche, on va aller se promener ou faire je ne sais quoi, on a donc décidé d'ouvrir. On trouvait ça bien aussi pour les gens du quartier qui, eux, travaillent en semaine et qui n'avaient pas le temps de venir. Voilà.
Et puis, enfin, nous, c'est un grand confort par rapport aux brocantes. C'est-à-dire que là, on arrive, le stand est déjà installé. C'est-à-dire qu'on tire la grille, on ouvre à 11h tous les jours, hein, donc le dimanche aussi, mais les autres jours, voilà. Donc, par rapport à quand il fallait décharger le camion, tout installer, là, on arrive à 11h moins le quart, on tire la grille, on branche la cafetière et c'est prêt. Voilà, tout est installé. Donc, les gens nous disent, ah, vous êtes quand même super courageux, travailler le dimanche. Mais en fait, par rapport à ce qu'on faisait avant comme travail le dimanche, nous, on a l'impression déjà d'être en pré-retraite, quoi.
Et du coup, est-ce que ça vous laisse le temps de lire, de travailler le dimanche? Parce que de ce que je entends, vous êtes des gros lecteurs, de gros bibliophores, du coup. Mais est-ce que vous avez encore le temps de lire?
Oui, bien sûr, on ne travaille pas tous les jours, en fait. On est présent dans la librairie, Corentin et moi, les mercredis et VSD, vendredi, samedi, dimanche. On se garde notre lundi. Alors, quand je dis on se garde notre lundi, quand il y a une grosse bibliothèque à aller chercher, si la personne nous dit ce sera lundi ou pas un autre jour, on y va le lundi. Mais sinon, voilà, on essaie de se garder les lundis pour nous. Et puis, moi, je suis une grosse lectrice du soir aussi.
D'accord.
Voilà.
C'est aussi pour ça qu'on commence tard le matin.
Et on commence
pour avoir
de plus
le temps
plus tard,
le soir
attention.
De lire un peu.
Du coup, vous vous remettez de la cuite de lecture de la veille, en fait.
C'est ça.
C'est ça.
Exactement. La cuite de lecture. Je vais réutiliser
ça.
Ça
va reprendre.
Ah, ça va pas ce matin. Bah, pourquoi cuite de lecture, là.
Super tard. J'en ai eu au moins 3. C'était trop dur. Plus jamais. Plus jamais les polars. Hein. Je mélange plus.
Tu viens en soirée. Ah, mais non, attends. Là, je retrouve mes potes dans mes livres. Tu peux pas comprendre.
En plus, ce soir, il y a polar et romance. Je me mets mal.
Pardon. C'est très bon, ça.
Et donc, dernière question. Ça y est, bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai réussi à me perdre dans mes questions. Oui, revenir un peu sur tout ce qui va être achat, vente, tout ça, parce que c'est aussi au cœur de votre bibliovore, du coup, parce que c'est pas vraiment une boutique, c'est un lieu de partage, mais c'est
une boutique, on aime bien dire boutique, surtout pas un magasin.
Ou librairie. Oui, non.
Mais boutique, librairie. Ouais. Librairie, boutique. Ouais.
Même si c'est vrai que plus souvent on pense librairie de livres neufs, donc il y a encore marqué quand même bouquiniste indépendant sur la vitrine, parce que c'est plus clair, souvent les gens, livres d'occasion, c'est bouquiniste, mais de plus en plus on met livres d'occasion, parce que c'est vrai que bouquiniste, on avait fait un post aussi une fois avec des cartes postales un peu des bouquinistes des quais de Seine, dormis sur leur siège avec des livres d'une autre époque. Enfin, nous, c'est vrai que plus c'est récent, mieux c'est pour nous. Donc, on travaille d'ailleurs très bien avec les libraires anciens, puisqu'il y en a quand même 3 rue de la Sellerie juste à côté et 1 dans la rue Colbert. Donc, il y en a quand même 4 sur les 5 librairies anciennes de Tours, donc, qui sont dans notre quartier. Et ce que nous, on va considérer comme trop vieux, pour eux, c'est déjà trop récent. Donc voilà, nous, un livre des années 50, on va dire, bah non, c'est un peu ancien. Et eux vont dire, ah bah non, si c'est après la Révolution française, c'est beaucoup trop récent. Donc c'est assez drôle. Et puis comme ça, on a de très bons rapports parce qu'on ne vend pas le même type de livre, c'est pas du tout la même démarche. Nous, c'est vraiment d'abord du livre à lire, c'est pas du livre à collectionner, donc c'est pas des exemplaires ultra rares, des choses comme ça.
Quelle était la question, pardon?
J'en ai pas encore une, moi, ça me va. Et du coup, je voulais parler un peu de tout ce qui est achat. Du coup, comment ça se passe? Bon, vous l'avez plus ou moins évoqué tout à l'heure, c'est 1 euro le kilo de livres achetés.
Oui.
Vous l'aviez aussi évoqué, parce que c'est bien, j'ai plus de questions du coup. Quand il y a beaucoup de livres, vous en occupez. Mais j'ai une question auquel vous n'avez pas répondu.
Ah.
Qui peut vous vendre des livres du coup?
Bah, tout le monde, les majeurs, un mineur doit venir accompagner. Si quelqu'un veut vendre ses Tom et Nana, bah, il vient avec un adulte.
C'est vraiment pour des dispositions légales, voilà. En fait, comme on est dans le commerce de l'occasion, que ce soit pour des voitures, des bijoux ou des livres de poche, les règles sont les mêmes. Donc il faut demander une carte d'identité à une personne majeure pour pouvoir l'inscrire sur notre registre des achats. Voilà, donc c'est une trace qu'on n'a pas volé les livres, en fait. Bon, sachant que, a priori, bon, on fait ça dans les règles bien, donc on prend le numéro de carte d'identité, de passeport, ou voilà, enfin, une pièce d'identité. On ne pense pas avoir décelé de trafiquants de livres de poche qui seraient venus voler 10 kilos de livres de poche pour gagner 10 euros. A priori, je pense que ce n'est pas le business le plus rentable dans ce genre de démarche.
Ouais, ça peut aller vite, hein. Ça commence comme ça.
Je pense que 10 kilos d'or, ça va beaucoup plus vite.
Et c'est peut-être un peu plus discret que 10 kilos de bouquins, où je pense que chacun sait, avec les cartons dans les déménagements, où ça fait mal au bras. Et du coup, au niveau de la vente, donc, vous l'avez dit, c'est les mêmes tarifs pour tous les livres. Et mais je sais aussi que vous faites de la vente en ligne. Est-ce que c'est encore le cas ?
Oui, alors je vais répondre parce que ça c'est mon fonds de commerce à moi depuis le début. Hein, ce que je disais, j'ai commencé en vendant en ligne mes livres de fac. Donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours conservé avec donc la chasse entre guillemets aux bibliothèques spécialisées, donc des livres surtout avec la possibilité toujours de les remettre en circulation. Moi c'est mon grand truc, c'est d'organiser au mieux la rencontre du livre et de son lecteur. Et la vente en ligne c'est une autre démarche. Donc on a toujours un fonds en ligne, il y a environ 2000 à 2500 titres qui ne sont pas ceux de la librairie. Ceux de la librairie sont pas du tout, ils sont pas listés sur internet ou quoi que ce soit, parce que ça prendrait du temps, il faudrait qu'on répercute sur les prix de vente, et on préfère que ça soit à surprise de venir voir ce qu'il y a, et puis de profiter du prix le plus bas possible en fait. Donc après, à partir du site internet du Bibliovore, il y a un lien sur notre boutique en ligne. Voilà, où il y a les 2500 livres. De plus en plus, on a utilisé un pseudo vraiment sournois, c'est-à-dire que le pseudo de la vente en ligne, on s'appelle Le Bibliovore, librairie indépendante à Tours. Donc c'est peu de gens ont réussi à nous identifier, ouais. Mais pour les plus téméraires qui donc nous voient en ligne et qui habitent pas très loin, se disent, et si je me déplaçais directement pour aller le chercher, c'est quand même plus sympa, je vois dans quel état est le livre, et en plus du coup nous on peut leur faire une belle réduction puisqu'il n'y a pas de frais d'envoi, il n'y a pas de commission du site marchand et ainsi de suite. Donc de plus en plus souvent on voit des clients qui disent j'ai vu ce livre là dans votre fonds sur internet. Donc ils sont à la librairie pas visible mais ils sont dans la réserve qui est derrière, donc on peut aller chercher les livres sans souci pour les vendre aussi à la librairie. Alors, évidemment c'est pas du tout la même démarche, c'est pas les mêmes prix, et puis c'est vrai que la vente en ligne au-delà du côté un peu froid c'est vraiment de la vente cataloguée, c'est-à-dire que la personne cherche ce livre là et va nous l'acheter à nous si on a un rapport qualité-prix meilleur que les autres. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu partager ces deux façons de proposer des livres. Quand on fait la démarche de venir à la librairie, c'est une librairie d'occasion, donc on peut toujours venir avec ses listes quand c'est des grands classiques. Voilà, si Madame Bovary, il y a des chances qu'on l'ait, ça c'est pas l'étranger, il y a des chances qu'on ait toujours un exemplaire ou deux d'avance, enfin qu'on les ait. Quand c'est des choses plus compliquées, c'est toujours un peu dangereux de venir avec sa liste. C'est vrai que la démarche, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment des prix super attractifs, qui en gros correspondent aux frais d'envoi sur n'importe quel site de vente de livres en ligne. Donc voilà, on n'est pas vraiment en concurrence non plus sur la vente de livres sur internet, puisque voilà, les prix font que c'est une autre démarche. Mais c'est vrai que le client lecteur type, c'est quelqu'un qui va venir en disant je vais m'en acheter pour 10€ une fois par mois, deux fois par an, deux fois par semaine, ça dépend des lecteurs, sans a priori, parce qu'en plus c'est rigolo, le quatrième est 1€, donc c'est marrant de se laisser tenter. Alors des fois voilà, chou blanc, je reviendrai la semaine prochaine ou dans un mois. C'est vraiment la découverte, c'est le fait de pas venir avec des a priori, de se dire oh tiens ça c'est incroyable, je connais très bien cet auteur, je n'ai jamais vu ce titre là ou de se dire oh c'est trop mignon cette couverture de ce livre que j'ai déjà,
une nouvelle édition,
voilà, ou de se dire ah ce livre là à chaque fois que je le vois je l'achète pour l'offrir. On a un client une fois, on se dit mais vous l'avez déjà acheté la semaine dernière, il dit non mais je sais très bien mais je l'ai déjà, mais comme ça je peux le donner plutôt que le prêter, parce que si on me le rend pas je vais être embêté, et comme ça voilà je peux le conseiller en disant voilà je te le donne,
puis après les personnes vont vous le revendre plus tard peut-être,
c'est possible aussi
on l'a vu il y a une semaine celui-là, la boucle est bouclée.
On est les premiers à le conseiller, à dire à nos habitués, voilà c'est des romans, si vous voulez pas les garder vous les abîmez pas, ça c'est important, donc on donne des marque-pages pour être sûr qu'il ne les plie pas trop. Et puis, vous nous les rapportez, on les rachète au poids. Enfin, voilà. Donc, ça permet d'avoir des petits sous pour se refaire un autre lot. Enfin, c'est très sympa. Donc, on en a beaucoup qui font ça. Donc, on fait un peu bibliothèque avec un prix de location, finalement. Enfin, c'est une démarche qui est sympa. Et puis, c'est vrai que tout le monde, toute la communauté participe. C'est-à-dire que nous, on peut proposer des livres à ce prix-là parce que, avant, des personnes ont accepté de nous les vendre aussi à petit prix.
D'accord. Juste avant de finir, on va peut-être faire un rappel rapide de toute votre programmation des événements, parce que donc vos festivals, tout ça.
Alors, le festival des poches, les premiers dimanches de chaque mois. Le Fest English, le dimanche 18 mars.
8 mars
8.
Moi, c'est bon, j'ai noté. Hein,
tous nos événements sont sur notre page Facebook. Quelqu'un a une connexion ici pour me dire. Merci. Le Festilong, je ne sais plus.
C'est un dimanche. C'est le deuxième dimanche du mois de mai.
D'accord. Bon, là, par contre, les vendredis 13, on fait des nocturnes jusqu'à 23h avec Tombola de 19h à 23h. on peut gagner des livres dans la librairie. Donc on l'a déjà fait une fois, ça a eu beaucoup de succès, il y a eu une très très belle ambiance. Voilà, donc venez rue Colbert les vendredis 13 au soir, finissez au diffus, au spot, au pincho, vous voulez.
Mais venez avant. Et du coup, terminer avec les infos pratiques, comment on peut vous retrouver sur le site, sur Facebook ?
Facebook, on est assez dynamique, on est beaucoup suivi, on a beaucoup d'abonnés, un peu plus de 6000 je crois. Instagram, je m'y mets tranquillement, voilà. Et puis, bah, les gens viennent nous voir tous les jours, sinon il y aura toujours quelqu'un de 11h à 13h et de 15h à 19h.
7 jours sur 7.
7 jours sur 7.
Eh bien, merci beaucoup, du coup, d'être venu.
Merci à vous.
Merci.
Et puis, donc, rendez-vous au Bibliovoir. Oh, peut-être rappeler aussi, du coup, où ça se trouve.
Au 104 rue Colbert.
Voilà, comme ça, au moins, c'est noté. On termine sur ça. Et puis, du coup, nous, ça va être l'heure de se laisser, parce que je vois le temps qui tourne et notre horloge qui est toujours un peu en retard.
Et oui, le temps de se laisser sur...
Les infos pratiques avant, peut-être, avant, Alexandre.
Mais exactement.
Tu allais le dire.
Avant d'écouter dès lors Michael Jackson, je rappelle que l'émission est en rediffusion demain à partir de 6h et qu'on va faire le podcast pour vous le mettre en ligne dès ce soir sur Radio Campus Tours.
Il y a quoi à 18h ?
Il y a le Flash RFI.
Et après ?
Le Ghetto Blaster, n'est-il pas ?
Oh, il est doué. Et bien à demain, bonne soirée.
Merci beaucoup.
Et on se quitte avec The Way You Make Me Feel.
Campus Tours 99.5
et sur internet radiocampustours.com.